Donc, 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 12. Et ceux qui sont sur la toile, j'aimerais vous saluer puis vous dire, vous n'avez pas besoin d'être membre pour venir nous visiter. Vous pouvez venir sur place et nous rencontrer. Mais si vous êtes dans le confort de votre foyer, peut-être, je ne sais pas, sur votre balcon, quoi qu'il fait froid un peu, hein, pour être écouté sur le balcon. Là. Ça, on sent que l'automne est arrivé, hein? On le sent vraiment. Moi, je suis arrivé ici en scooter, je me suis dit, ah, j'aurais dû mettre des gants, c'est un peu frisquet. 1 Jean chapitre 5, les passages d'1 Jean chapitre 5, versets 6 à 12. On achève la série sur 1 Jean. Il n'en reste pas beaucoup, c'est le dernier chapitre. Je veux parler d'expérimenter une foi solide. Vous savez, la foi s'exprime puis s'expérimente dans tous les domaines de notre vie. Pas juste dans le domaine de la spiritualité, de ce qu'on appelle la religion, mais dans tous les domaines. Vous savez, par exemple, dans la région de Montréal, on est en train de construire un nouveau pont Champlain. Ça, c'est une photo exclusive, là, pris d'en dessous. Là. On est en train de construire ce nouveau pont avec les nouvelles technologies. Et les employés qui y travaillent sont équipés avec le meilleur équipement de sécurité par la firme SPI Sécurité. Je dis ça parce que mon fils travaille pour SPI Sécurité. C'est pour ça que je fais une petite publicité. Mais pour vous dire que quand on va traverser le pont, il ne va pas avoir une congestion avant d'entrer. C'est sûr qu'il va en avoir une dessus, mais il n'y aura pas une congestion avant d'entrer en disant « Eh bien là, je ne suis pas sûr si je devrais passer dessus, je ne suis pas sûr s'il va tenir la route. » Non, non, on va passer dessus, puis comme si rien n'était. Pourquoi? Parce qu'on a foi, on a confiance que ça va être solide, ça a été prouvé, ça a été testé. Je ne pourrais pas dire la même chose pour les viaducs, hein, parce qu'à l'espace de 10 ans, à Laval, il y a eu 2 viaducs qui se sont effondrés. Donc, moi, ma foi envers les viaducs de Laval est mise à l'épreuve, ça, c'est sûr. Mais moi, il y a un endroit sur la planète où est-ce que je dois exercer une foi, c'est quand je suis dans un avion et qu'il y a des turbulences. Je vous en ai déjà parlé. Je m'accroche après le banc, là, tu sais, comme si c'est plus sécuritaire, là. J'ai les mains moites. Mais je dois me parler. Je me parle. Je me dis non, le pilote, il ne veut pas s'écraser. Mais moi, ce n'est pas tant le pilote. C'est que quand je sens que le véhicule, l'aéronef, bouge, je dis, il va-tu craquer en deux? Là? Des fois, là, ça branle, là, c'est incroyable. Et là, je me parle, je me raisonne, puis je me dis à chaque fois, la dernière fois, il ne s'est rien passé, pourquoi tu paniques? C'est plus fort que moi. Mais vous savez, dans plein de domaines de notre vie, on a la foi. On mange des aliments, puis on ne se pose pas la question, est-ce que je vais m'empoisonner tout à l'heure? On les mange par la foi. Et la plus grande question à se poser, là, c'est pas si j'ai la foi ou non, parce que tous les êtres humains ont la foi. Les théistes ont la foi en Dieu. Les déistes ont la foi en un Dieu qui est transcendant, mais qui n'est pas immanent. Ça veut dire que il est en dehors de la création, mais il n'est pas au milieu de ce qu'on vit. Ça, c'est les déistes qui croient ça. Les athées ont la foi. Tu leur dis, ben non, Éric, t'exagères. Oui, oui, ils basent leur vie en fonction de leurs croyances. Leur décision, c'est en fonction de leurs croyances, que Dieu n'existe pas. Ils ont une foi. Puis ils ne veulent pas qu'on leur impose une autre foi que celle-là, parce que c'est leur foi. Les agnostiques, eux autres, tentent sans succès de ne pas définir leur foi. Mais c'est intéressant parce que j'ai eu une discussion avec Alex Farley, notre spécialiste en apologétisme, puis il m'a expliqué quelque chose d'intéressant par rapport aux agnostiques. Il dit, en disant que Dieu ne peut être connu et que son existence ne peut être connue, les agnostiques déclarent quelque chose de très déterminant au sujet de Dieu, aussi déterminant que les chrétiens peuvent dire de la part de Dieu. Ils vont affirmer que Dieu ne peut pas être connu. Donc, ils vont avoir une foi très affirmative par rapport au fait qu'on ne peut pas connaître Dieu. Ça, c'est les agnostiques. Et pourtant, Dieu a parlé de lui-même. Mais la plus grande question, ce n'est pas de savoir si on a la foi ou non. C'est est-ce que notre foi est approuvée de Dieu? Ça, c'est la grande question. Et c'est ça qu'on doit tenter de chercher en tant qu'être humain, parce que c'est tout là que se trouve le sens de la vie. Mais pour comprendre une foi approuvée de Dieu, eh bien, une chose qui est fondamentale, il faut naître de nouveau. Parce que Jésus l'a dit lui-même dans Jean chapitre 3. Il le dit à Nicodème. À moins qu'on naisse de nouveau, on ne peut pas voir, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une perception, une compréhension de Dieu qui est impossible d'être captée à moins d'être de nouveau. Puis je vais en parler tout à l'heure, c'est quoi, puis comment on peut naître de nouveau. C'est ça qui nous amène à avoir une conviction claire sur l'existence de Dieu, à un point tel que tous ceux qui sont nés de nouveau, en tout cas pour la plupart à qui j'ai parlé, vont avoir le raisonnement suivant, c'est comment j'ai fait pour vivre autrement auparavant? Comment j'ai fait pour vivre avec une si petite conscience de Dieu? Comment j'ai fait pour vivre sans dépendre de Dieu comme je dépends de Dieu aujourd'hui? Quand on passe par la nouvelle naissance, il y a cette nouvelle dimension-là qui nous ramène à la grandeur de Dieu et à une dépendance de Dieu de plus en plus totale. Et c'est pour ça que le passage d'aujourd'hui, dans 1 Jean chapitre 5, va solidifier notre foi, la foi qui nous a été donnée par Dieu. Et pour bien comprendre ce texte-là, ce passage-là, il faut se mettre dans le contexte. À l'époque, il y avait des faux enseignements qui commençaient à se répandre et les apôtres devaient corriger le tir. Et un des faux enseignements, c'était qu'on remettait en question la validité de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Puis Jean, ce qu'il veut démontrer dans ce passage-là, c'est que le ministère puis la mission de Jésus-Christ, elle est approuvée par Dieu. Et c'est pour ça que ça va solidifier notre foi aujourd'hui. En fait, on va voir trois éléments. On va voir l'expérience de Jean et le témoignage externe de Dieu et troisièmement, le témoignage interne de Dieu, que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'avant de lire le passage, j'aimerais qu'on puisse se recueillir pour que ce texte puisse fortifier notre foi et que notre cœur puisse être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Recueillons-nous en prière, s'il vous plaît. Oh Père, combien tu es un Père qui est rassurant. On voit dans ce passage que tu veux nous rassurer. Tu veux nous démontrer que la foi que tu approuves, tu veux qu'on l'expérimente et elle est solide. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton esprit qui éclaire. Merci pour ta parole qui nous guide, qui nous donne des repères, qui nous instruit. Merci pour ce fondement. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous équipes, tu nous instruis. C'est merveilleux. On t'en rend grâce. Que ce texte nous parle, nous fortifie pour la gloire de Christ. Amen. L'expérience de l'apôtre Jean est donc... On le voit au chapitre 1, verset 1. Jean a vu le Seigneur, il a entendu le Seigneur, il a contemplé le Seigneur, puis il l'a même touché de ses mains. C'est un témoin de premier plan. Et ce qu'il va dire, il va parler avec l'autorité d'un témoin. Il dit dans Jean, c'est dit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. » Puis une des expériences que l'apôtre Jean a faites, c'est sur le mont de la Transfiguration, dans Matthieu 17, 5, lorsqu'il a été témoin que Jésus était métamorphosé, transfiguré, et Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie, et les apôtres, Pierre, Jean et Jacques, ont été stupéfaits parce qu'ils ont entendu une parole audible de la part de Dieu qui disait « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ils ont été témoins de ce que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Messie, c'est celui qui est approuvé de Dieu. Et lui, il veut témoigner de cette réalité-là à travers les passages, à travers le passage du chapitre 5, versets 6 à 12. Et c'est pour ça qu'il va parler d'un témoignage externe de la part de Dieu. Et on va lire le verset 6. « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. » C'est un verset qui peut sembler obscur à première vue, mais ce que Jean est en train de dire, c'est que Et ce qui est intéressant, c'est que dans le grec, parce que ça a été écrit originalement en grec, la construction de la phrase est écrite de manière à ce que ça exprime un fait historique. C'est un fait assuré. C'est quelque chose d'établi. Puis, il veut démontrer que non seulement le ministère de Jésus est divin, mais également sa mort. Parce que les Cyrintiens, à l'époque, pas les Corinthiens, les Cyrintiens, eux autres affirmaient que l'Esprit de Jésus reposait sur lui jusqu'à sa mort. Mais au moment où est-ce qu'il était crucifié, juste avant d'être crucifié, l'Esprit s'est retiré. Donc, ça enlevait une valeur à son œuvre à la croix. Puis lui est en train de dire, non. L'eau qui figurait le baptême, le sang qui est sa mort à la croix, à partir du moment où est-ce que son ministère a été établi, parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui au moment qu'il s'est fait baptiser, on le voit dans Matthieu 3, 17, jusqu'à la croix où est-ce que Jean a été témoin de la crucifixion de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu a été à l'œuvre dans, au travers et sur la personne de Jésus-Christ. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Dans Matthieu 3, 15 à 17, ça dit, « Jésus lui répondit, en parlant de Jean le Baptiste, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » La même parole qui a été dite par la suite, sur le mont de la Transfiguration dans Matthieu chapitre 17. Donc Jésus est mis à part pour une mission, venir mourir sur la croix pour payer pour nos fautes, nos péchés, pour prendre notre place, prendre la condamnation de Dieu à notre place. Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui, le Père a attesté qu'il s'agissait de son envoyé. Donc, il est en train de démontrer la foi que vous avez en Jésus-Christ, c'est la foi approuvée par Dieu. C'est ce que Jean essaie de nous dire. Et il fallait que Jésus-Christ accomplisse sa mission sur la croix et qu'il donne sa vie, il donne son sang, comme on voit dans Colossiens 1:20. Et cette mission-là a pris forme, disons qu'elle a été officialisée au moment de son baptême, et c'est pour ça que l'eau rend témoignage de ce que Jésus est un approuvé de Dieu, il est approuvé de Dieu, et il l'est également jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça qu'il veut démolir ce faux raisonnement des Cyrintiens. Et Jean, lui, a pu rendre témoignage de ce qu'il a été un témoin direct, comme on l'a vu au chapitre 1, verset 1. Il l'a vu, il a contemplé, il a entendu, il l'a touché. Et donc, l'Esprit a vécu cette mise à part et l'a vécu jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Et dans ce verset-là, on voit que l'Esprit de Dieu ne peut pas mentir. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il est le Dieu de vérité, il est le véritable et il est la vérité. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 7, il y en a trois qui rendent continuellement ce témoignage. Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome 17 et dans le Deutéronome 17 et 19, on voit que lorsqu'on veut porter accusation ou qu'on veut rendre témoignage pour défendre quelqu'un, on doit s'appuyer sur la déposition de deux ou trois témoins. Jésus reprend ce principe-là dans Matthieu 18, lorsque c'est le temps de ramener quelqu'un à l'ordre. Il dit, si vous êtes deux ou trois pour ramener quelqu'un à l'ordre, je suis au milieu de vous. Si vous voulez ramener quelqu'un à l'ordre selon les fondements de la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, je suis au milieu de vous. Donc, le principe des deux ou trois témoins, Jean l'applique ici pour dire, il y en a trois témoins. Il y a l'Esprit qui est venu sur Jésus-Christ, qui a été avec lui tout au long de son ministère, l'eau, le baptême qui a officialisé son ministère, puis le sang, où est-ce que l'œuvre a été accomplie parfaitement. Jean 19, 30, Jésus a dit, tout est accompli. Et donc, le Père et l'Esprit ont rendu un témoignage au Fils, dans Matthieu 3, comme on l'a vu. Le sang de Jésus à la croix témoigne de son identité, Matthieu 27, Hébreux 9. Et même que Jésus était animé de l'Esprit de Dieu quand il était en train de se faire crucifier, parce qu'il a dit à un des larrons, il dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il a fait une déclaration solennelle. Il y a juste Dieu qui peut affirmer quelque chose comme ça. Sinon, c'est un mensonge. Et c'est pour ça que l'Esprit a testé l'identité de Jésus tout au long de sa vie. Au moment de la conception, Luc 1, on le voit même, Pierre, qui affirme ça dans Acte 10. Et on voit même que Marc le mentionne aussi dans Marc 1, 12, quand c'est dit « conduit par le Saint-Esprit ». Aussitôt après son baptême, l'Esprit fit partir Jésus au désert. Donc, Jésus était conduit par le Saint-Esprit tout au long de son ministère, puis l'exemple du désert en est un. Et donc, ces trois éléments-là pointent ou convergent dans une direction bien précise. Jésus-Christ est le Christ envoyé en chair et l'Esprit de Dieu reposait sur lui tout au long de son ministère. Donc, réalisez-vous que ça peut être banal, juste ce passage-là, mais ce passage-là nous indique que celui qui est approuvé de Dieu, celui qui l'a envoyé, celui qui est venu pour payer pour nos fautes, celui sur qui notre foi peut reposer, c'est Jésus-Christ, celui qui est mort puis qui est ressuscité. Et ça, là, et c'est écrit dans un langage qui exprime non seulement de la fermeté, mais c'est quand Jean l'écrit, c'est comme, c'est une évidence. Il n'y a rien de plus évident, c'est un fait historique. Et au verset 9, il va dire, « Dans la perspective que nous nous approprions le témoignage des hommes comme étant un fait, le témoignage de Dieu est plus grand, car Dieu a rendu un témoignage officiel et valide concernant son Fils. » En d'autres mots, même si des gens ont été témoins de ce qui se passe avec Jésus, puis que c'est un fait, c'est véridique, le témoignage de Dieu qui a approuvé Jésus-Christ en disant « c'est lui mon envoyé, c'est lui le Messie », ça surpasse tout ce que les gens ont pu vivre ou expérimenter. Parce que Dieu l'a approuvé. Et donc, Jean, en tant que témoin oculaire puis contemporain de Jésus, atteste que le témoignage rendu par les hommes à Jésus est un fait historique. Jean est en train de dire « ce témoignage-là, c'est un fait historique ». C'est un fait qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est une chose sûre. Mais le témoignage de Dieu sur Jésus-Christ est encore plus grand que ce fait historique-là. Et ça démontre la suprématie du témoignage de Dieu. Et c'est pour ça que là, il va nous parler, Jean, du témoignage interne. Non seulement c'est un fait historique, non seulement c'est un fait historique approuvé de Dieu, mais d'une manière interne, lorsqu'on est né de nouveau, Dieu témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu quand on l'est. C'est ce que Paul va dire dans Romains 8, il va dire ça dans Galates chapitre 4. Et c'est pour ça qu'au verset 10, ça nous dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et le mot témoignage ici, ça vient d'un vocabulaire juridique, d'une personne qui a été témoin oculaire ou auditive. C'est une déclaration solennelle, c'est une affirmation. En d'autres mots, là, Jean est en train de dire, il n'y a aucun doute dans notre esprit, il n'y a aucun doute dans l'esprit de celui qui croit au Fils de Dieu parce qu'il y a ce témoignage en lui-même. Il y a une certitude en lui-même. Il y a quelque chose d'établi en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur puisqu'il est résolu ou refuse délibérément. En anglais, on dit « settled state ». Il est résolu ou refuse délibérément de ne pas croire au témoignage que Dieu a rendu à son Fils comme étant un fait historique. Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Messie fait Dieu menteur. Alors, quand quelqu'un dit « oui, mais toutes les religions sont bonnes », mais comment Dieu peut approuver une religion qui exprime que Dieu est menteur? Dieu ne peut pas approuver une religion qui dit « ouais, Dieu t'es menteur », puisque de ne pas croire au Fils de Dieu comme étant l'envoyé et le mandaté de Dieu, ça fait Dieu menteur. Comment Dieu peut approuver ça? Dieu travaillerait contre lui. Ça serait une incohérence totale. Et c'est pour ça que celui qui croit a ce témoignage, celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Il a cette certitude en lui-même. Et si rejeter le témoignage que Dieu rend son Fils revient à le traiter de menteur, eh bien, c'est qu'on contredit Dieu. Et Dieu, lui, on le voit dans Tite 1-2, Hébreux 6-18, ne peut mentir, il ne saurait mentir. Et c'est pour ça qu'au verset 11, il va dire, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, et regardez bien ici, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Intéressant, hein? Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Et il y a un des exégètes du texte qui m'a fait voir cet aspect-là, c'est que celui qui est le Fils a la vie. Il n'y a même pas besoin de mentionner Fils de Dieu, parce que pour lui, la personne qui est née de nouveau, la personne qui est enfant de Dieu, Jésus, c'est clair, c'est une évidence qu'il est le Fils de Dieu. Mais pour celui qui n'a pas le Fils de Dieu, qui ne reconnaît pas que le Fils est le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Et il est appelé à croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est incroyable. C'est tellement affirmatif, ce passage-là. Là. C'est que, moi, ça m'a amené à voir, dire, wow, on a une foi solide que Dieu approuve. Et que lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, qui a pris ma place à la croix, qui a pris ma condamnation, je suis dans une foi approuvée de Dieu. Et non seulement je suis dans une foi approuvée de Dieu, mais il m'a donné cet esprit-là avec la conviction que je suis un enfant de Dieu. C'est solide. C'est solide. C'est impeccable. Et ça vient d'un témoin oculaire, d'un contemporain de Jésus. Et ici, ne pas avoir la vie fait référence à ne pas avoir la vie éternelle. Et comme on le voit dans un autre livre qui est écrit de la main de Jean, dans l'Apocalypse 20 et 21, ça parle du châtiment éternel. Mais vous allez dire, ah ouais, si vous écoutez ou regardez sur la toile, bon, c'est ça, parle encore d'enfer, vous autres, puis châtiment. Mais il y a une bonne nouvelle. On n'a pas besoin de vivre le châtiment éternel, parce que Dieu nous dit, oui, on est tous condamnés en tant qu'être humain à cause qu'on est pécheurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, justement, est venu mourir à notre place. Puis on peut éviter ce châtiment éternel-là. Il veut nous donner la vie. Il veut que ses enfants témoignent de cette assurance qu'on a d'avoir été sauvés par lui, pas parce qu'on est meilleur, parce qu'il sauve, parce que c'est le cadeau qu'il nous offre. Et croire en Dieu puis le témoignage que Dieu rend à son Fils nous amène à croire à son Fils et naître de nouveau. Et ça produit un témoignage intérieur. Et ce témoignage intérieur-là nous amène une claire conviction qui fait que quand quelqu'un nous parle de Dieu ou qu'il nous ouvre une porte pour parler de Dieu, c'est automatique, on veut en parler. Écoutez, le lundi puis le vendredi, là, je fais de la natation. Puis, le matin de bonne heure. Puis, la plupart des hommes ne sont pas trop parlants le matin. En tout cas, pas avec des étrangers. Tu sais, entre eux, quand deux sont ensemble, ça parle. Là. Bon, fait qu'on se salue des fois. Là. Bon, bonjour. Là, à un moment donné, l'autre rangée en avant, je ne les vois pas, là. Mais je reconnais la voix d'un monsieur qui est joker, là. Peut-être autour de 70 ans, le monsieur, mais il est tellement en forme puis il est tellement vif d'esprit. Il commence à parler de Dieu puis de la Bible avec un autre gars. Mais l'autre gars, il s'en va dire au monsieur, « Oh, moi, je suis musulman. » Mais ça, il disait ça comme en voulant dire, « Achale-moi pas avec tes affaires de Bible. » Fait que là, ils commencent à parler ensemble. T'sais. Puis là, c'est quand il commence, là, je me change. T'sais. Là, il commence à dire, « Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment croire la Bible? » Là, je dis, « Non. » Ah non, je ne peux pas laisser passer ça. Là. Je ne peux pas. Tu sais, fait que là, je m'en vais, je dis, écoutez, monsieur, savez-vous quoi? On peut croire la Bible. Il dit, ouais, dans ce temps-là, il y avait des téléphones, il y avait des magnétophones, puis on pouvait enregistrer ce qui se disait, tu sais, en voulant dire ce qui est écrit, là, on peut le remettre en question. Je dis, ben, écoutez, monsieur, savez-vous que, vous savez, les Juifs, à un moment donné, sont divisés, le Nord puis le Sud. Il y a eu une chicane. Puis quand ceux du Nord, on dit, ben, on va recopier les textes qui étaient à Jérusalem, les textes de la loi, la Torah, les cinq livres. Puis quand on les a comparés quelques siècles plus tard, ceux du nord et du sud étaient les mêmes. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est les mêmes, avec deux clans qui sont en guerre. Ah, oh, OK, c'est correct. Puis là, il est parti. Il n'était pas content. Mais j'étais là, je ne peux pas y laisser croire un mensonge que la Bible, c'est tout simplement une série de textes de bouche à oreille qui a été déformée au fil des ans. Parce que c'est faux. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il veut témoigner de la vérité. Il y a ce désir-là de faire connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. C'est en lui, c'est en elle. Et c'est pour ça que Jean dit, si tu es né de nouveau, mais tu as ce témoignage-là en dedans de toi, que Jésus, c'est le Fils. Et c'est pour ça que, en conclusion, eh bien, notre foi, pour ceux qui sont des enfants de Dieu, elle est approuvée par Dieu. Et notre foi approuvée par Dieu est une foi biblique et christocentrique. Une foi qui est centrée sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait homme et a pris notre place à la croix. Et oui, ça se peut qu'on ait des phases de doute. Jean-Baptiste a eu des doutes. Thomas a eu des doutes. Mais, comme moi dans l'avion, quand j'ai des doutes, je me parle. Puis à un moment donné, quand on remet nos cœurs à Dieu, eh bien, le doute vient être apaisé parce que Dieu vient, il nous amène à se reconnecter avec lui, puis on revoit les choses dans sa perspective. Et la question qu'on doit se poser, c'est que, est-ce que je suis quelqu'un qui parle selon la vérité? Est-ce que, il y a des gens que j'écoute que je ne devrais pas écouter. Est-ce que tu es quelqu'un qui veut te convaincre à tout prix que Jésus-Christ n'est pas le sauveur? Est-ce que tu es en colère contre Dieu? Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser parce que ça vient mettre un obstacle à ce que Dieu veut parler à notre cœur. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse se recueillir en terminant, puis je vais inviter les musiciens à s'avancer. À ce qu'on puisse se remettre... Si on est un enfant de Dieu, à dire, hey, « Seigneur, je veux expérimenter cette foi qui est solide. Je veux la vivre, cette foi qui est un fait historique. Je veux vivre cette foi que Dieu approuve pour ne plus être justement dans la méfiance, dans le doute. » Et si toi, tu n'as pas expérimenté cette foi qui est solide, bien, tu peux le faire. Mais je t'invite à te recueillir avec nous pour en prendre conscience. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, peut-être qu'il y a des gens ici qui vont te demander de les délivrer de leur incertitude. Peut-être des gens vont te demander de retrouver la paix avec toi. Peut-être qu'il y en a qui même font de toi un menteur parce qu'ils ne veulent pas adhérer à la foi en Jésus-Christ, celui que tu as approuvé, celui que tu as mandaté, celui que tu as envoyé pour nous, celui à qui tu as donné une mission de venir pour nous sauver. Mais Seigneur, il y a juste toi qui peux convaincre les cœurs. Et pour naître de nouveau, comme j'expliquais au début, eh bien, c'est de naître de cet Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et pour qu'il vienne habiter en toi, eh bien, la parole de Dieu nous enseigne de reconnaître que Jésus-Christ est mort à ta place. C'est toi qui aurais dû être condamné. C'est toi qui as offensé Dieu. C'est toi qui fais le mal. Mais Jésus a payé pour toutes tes fautes, pour le mal qui habite en toi. Il a payé pour le mal qui habite en moi. Un jour, il m'a ouvert les yeux et j'ai reconnu qu'il était le seul qui pouvait me sauver. J'ai reconnu, parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu, qu'il a payé à ma place. Et je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Et tu peux vivre cette expérience-là pour naître maintenant de nouveau, naître de la perspective de Dieu, naître de l'Esprit de Dieu. Et pour ceux qui sont ses enfants, eh bien, puisses-tu nous encourager parce que tu nous as donné une foi qui est établie sur un fondement solide. Jésus-Christ, le Fils, dès sa conception, il a été enfanté par le Saint-Esprit Et dès qu'il est entré en mission, l'Esprit est venu sur lui. Et il s'est rendu jusqu'à la croix pour accomplir parfaitement ta volonté, Père. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que pour tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, il n'y a aucune crainte d'un châtiment éternel. Parce qu'ils ont accepté, ils ont reçu le fait que Christ est mort à leur place. Quelle bonne nouvelle, Seigneur. Et si tu es en train de vivre cette expérience d'être sauvé par Jésus-Christ, écris-nous si tu es sur la toile, appelle-nous, ou si tu es ici en salle, viens, discute de cette expérience avec nous, afin qu'on puisse se réjouir avec toi. Et je te remercie, Père, que tu vas encore sauver aujourd'hui, en 2018. Ici, dans la région de l'Outaouais, partout dans la francophonie, parce que tu es le Dieu de gloire qui veut sauver. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.